La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne.
Alors, nous allons parler d'un couple star de la Bible. Il s'appelle Isaac et elle s'appelle
Rebecca.
Isaac et Rebecca forment le couple le plus uni de l'ancienne alliance. Un seul époux pour une unique épouse.
C'est rare, hein?
C'est très rare. C'est juste l'exception. C'est pourquoi on les cite en exemple chaque samedi, chaque Shabbat, pour attirer la bénédiction de Dieu sur le foyer qui célèbre l'entrée dans le repos prescrit par Dieu à son peuple élu.
Et alors, curieusement, leur fidélité mutuelle n'est pas fondée sur un lien fusionnel, mais plutôt sur l'engagement de l'un et de l'autre envers Dieu, qui a fait bénéficier chacun d'un appel particulier. Ainsi, c'est l'encre de la foi, celle dont l'Épître aux Hébreux dit qu'elle pénètre au-delà du voile, au-delà de la chair, qui a assuré la solidité de leur couple. C'est une belle leçon à méditer dans les temps un peu confus qui sont les nôtres tout de même.
Alors donc, pour parvenir à ce résultat de fidélité, Dieu n'a pas lésiné sur les moyens. Il a mis à l'épreuve la foi d'Isaac, comme celle de Rebecca, et leur noviciat respectif a creusé les solides fondations de leur union matrimoniale. On va regarder de plus près.
Effectivement, il faut remonter au sacrifice d'Abraham, comme nous l'appelons, mais qui est en fait appelée la ligature d'Isaac, Akeda Yitzhak en hébreu. Et elle constitue d'une part l'épreuve crucial de leur relation père-fils et d'autre part la pierre de touche de la vocation propre à chacun des deux. Proclamé chaque nuit de Pessah, de Pâques, ce texte, en fait, évoque irrésistiblement la passion du Christ, à tel point qu'il a disparu du canon de la Pâque juive au début du 1er siècle, au début du christianisme. Parce qu'en fait, le parallélisme entre Isaac gravissant le mont Moria chargé du bois de l'Holocauste et Jésus tant au Golgotha chargé du bois de la croix, c'était quand même un peu éloquent et un peu gênant.
Alors, revenons un peu sur l'enfance et sur l'adolescence d'Isaac pour voir comment il a été préparé, en fait, dans ces moments à son futur mariage. Mm-hmm. Donc, depuis le renvoi de son demi-frère Ismaël, les années se sont écoulées, si bien qu'Isaac n'est plus un enfant quand Dieu appelle Abraham à l'offrir en holocauste. C'est pas du tout un gamin, il a 33 ans.
Exactement.
33 ans lors de cette ligature. C'est donc pas un enfant, un adulte plutôt, tel que d'ailleurs certains l'ont représenté. On pense au Caravage,
oui,
on pense
ou à Rembrandt.
Même Cristofano Allori.
Oui, tu as raison, et beaucoup d'autres.
Et donc ce parti pris pictural s'appuie en fait sur une déduction logique qu'établissent les rabbins en constatant que la mort de la mère, à savoir Sarah, c'est 127 ans, nous dit le livre de la Genèse, chapitre 23, versets 1 et 2. Et cet événement suit immédiatement l'épisode de la ligature d'Isaac qu'on trouve au chapitre 22.
Oui, alors, dans ce cas-là, si tu veux, force est de constater que Sarah est absente de ce récit crucial. Hein. C'est la grande oubliée. Abraham ayant préféré la tenir dans l'ignorance, et pour cause, elle aurait certainement mal pris.
Ben oui.
Pour justifier, j'allais dire, de leur absence, eh bien Abraham lui aurait dit qu'il se faisait vieux, qu'il était grand temps pour lui d'initier Isaac aux arcanes du culte du Dieu unique. Et c'est donc a posteriori au récit de l'événement, quand il lui a raconté ce qui s'était passé et ce que Isaac avait risqué, l'effroi a saisi Sarah et son cœur s'est arrêté de battre. Cette dixième et ultime épreuve par laquelle Dieu achève de purifier la foi d'Abraham requiert, à la différence des neuf précédentes, elle est la plus difficile parce que elle réclame l'adhésion de sa liberté. Jusqu'ici, Abraham a obéi, mû par une crainte révérencieuse à l'égard de Dieu. Mais l'Éternel veut qu'il passe de la religiosité motivée par la crainte à la foi fondée sur l'amour qui se donne librement. C'est pourquoi il va demander à Abraham son consentement.
Et il lui dit, prends, s'il te plaît, Sénat. En hébreu. Donc, prends, s'il te plaît, ton fils, ton unique. Ben oui, parce que ton fils, il pourrait y en avoir deux.
Il y en a deux, d'ailleurs.
Oui. Mais ton unique, que tu chéris, Isaac. Et là, tu iras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Ce « na » qu'on évoquait en hébreu, qui veut dire « s'il te plaît », donne toute sa valeur au leitmotiv du récit concernant le père et le fils. ils s'en allaient, dit le texte, tous ensemble. Ainsi, une profonde communion qui est unie. Et en effet, ce Akeda signifie ligote-moi. Telle est donc la requête d'Isaac, son père, lorsqu'il comprend qu'en fait, il est lui-même l'agneau à pourvoir pour l'Holocauste.
Oui. Et en cela, il se doit d'être docile comme un agneau mené à l'abattoir, dit Isaïe au chapitre 53, afin que leur sacrifice à tous deux ne soit pas invalide. C'est eu égard à leur conjointe obéissance et à leur parfaite unité que l'ange va arrêter le bras du vieil homme et lui montrer le bélier qui s'est pris les cornes dans le buisson, afin de l'offrir en holocauste à la place de son fils. C'est au chapitre 22 de la Genèse.
Alors évidemment, cet agneau anticipe le sacrifice de Jésus,
oui,
que Jean le Baptiste a désigné, tu t'en souviens, à la foule, en disant de son cousin, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ainsi, Isaac, en tant que préfiguration formidable du Christ Jésus, tout fils qu'il était, il a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Notons d'ailleurs, Jocelyne, qu'Isaac, par 23 ans, il a l'âge du Christ, au jour de sa passion. Il est donc parfaitement en mesure de se soustraire, s'il le souhaite, à la volonté de son père, dès lors qu'il la devine. D'ailleurs, le texte nous dit, Genèse 22, « Mon père, vous feuillez le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?»
Alors, au vu de la réponse énigmatique que lui fait Abraham, il a pu prendre ses jambes à son cou en se disant « Là, on est en train de me jouer un mauvais tour. » Mais au contraire, il va entrer dans l'obéissance de la foi à l'instar de son père. C'est pourquoi il est dit que, espérant contre toute espérance, il crut et cela lui fut compté comme justice. C'est l'Épître aux Romains qui dit ça. À son tour, Isaac est sorti vainqueur de cette épreuve.
Donc, après cette épreuve, quand le récit le concernant reprend, qui a été enterré dans la grotte achetée par Abraham, la grotte de Macpéla, 7 ans de deuil vont suivre, sans qu'Isaac ne parvienne à se consoler, en fait. C'est beau, cette possibilité d'aimer sa mère dans la Bible,
oui,
et de ne pas avoir honte d'aimer ses parents. Je le dis parce que parfois, ça fait un peu ringard d'aimer ses parents. C'est assez biblique comme positionnement. Alors, Abraham décide-t-il, il va quand même forcer un peu le destin, il va quand même penser à son fils, et il décide d'envoyer son serviteur Eliezer chercher une épouse pour Isaac à Aram Naharaïm, Genèse 24, donc dans sa parenté. Parce qu'il est terrorisé à l'idée qu'Isaac, en désespoir de cause, finisse par choisir les charmes d'une cananéenne idolâtre, et ça, ce serait la catastrophe pour lui.
Exactement. Alors, Eliezer, donc, qui signifie le serviteur d'Élie, le serviteur de Dieu, charge 10 chameaux, c'est pas un ou deux, 10 chameaux, de tout ce que son maître avait de bon. Donc, il fait vraiment le maximum.
Là, une dot.
Oui, et il se met en route pour la haute Mésopotamie. Il y a du chemin. Et une fois arrivé au puits hors les murs devant Aram, et à l'heure où les jeunes filles sortent en grappes joyeuses et volubiles pour puiser de l'eau, eh bien il va prier Dieu de lui donner un signe. Et le signe est le suivant, celui qu'il demande. La jeune fille à laquelle il demandera à boire et qui, de surcroît, proposera spontanément d'abreuver ses 10 chameaux, eh bien c'est elle qui sera l'épouse destinée à Isaac.
C'est quand même un cahier des charges très très précis. Hein.
C'est très élevé, ça ne peut pas être le fruit du hasard.
Si ce n'est pas ça, ce ne sera pas elle. Donc autant dire des vrais travaux d'Hercule, non pas pour un Hercule, mais pour une femme, à raison quand même de 40 litres par chameau, fois 10.
Pour les abreuver.
Exactement. Mais il n'a pas fini de parler que le miracle se produit sous ses yeux. Une jeune fille descend à la source, remplir sa cruche et en remonter. Elle est très belle, nous dit le texte, elle est vierge, aussi gracieuse qu'hospitalière, nous dit la Genèse, Genèse 24, 16. Et à la prière d'Éliezer le voyageur, le texte nous dit qu'elle abaisse sa cruche sur son bras pour étancher sa soif et également elle s'offre spontanément pour désaltérer les bêtes. Eliezer est complètement médusé par ce qui se produit, par ce miracle qu'il a demandé, mais qui se produit. Elle va, elle vient, elle puise l'eau avec sa cruche, elle remplit l'auge avec allégresse, et même la petite histoire juive nous dit que Dieu va la gratifier d'un miracle quand même pour l'aider dans sa tâche, c'est que l'eau du puits va monter d'elle-même. On retrouve cette idée quand le Christ parle à la Samaritaine, aussi au puits de Jacob, donc ce sera après dans l'histoire, mais et il lui dit que cette source, elle sera jaillissante pour la vie éternelle. Ben, voilà, il y a un lien vraiment entre cette eau qui surgit pour aider Rebecca et puis cette eau de la Samaritaine.
Oui, Rebecca qui se dit Rikva en hébreu, c'est joli, Rikva en hébreu, je trouve aussi. Cette jeune fille qui signifie, son nom signifie la rassasiée, c'est-à-dire en fait la pleine de grâce.
Un peu comme l'ange Gabriel dit à Marie,
oui,
tu es comblée de grâce.
Exactement, elle est la fille de Bethuel, lui-même fils de Milka. Milka, c'est l'épouse de Nahor. Alors, vous êtes déjà perdu dans la généalogie, j'en conviens, mais Nahor, en fait, c'est le frère aîné d'Abraham. Elle est donc la cousine d'Isaac au second degré. Entre eux, il y a une génération de différence. Elle est toute jeune, elle a 15 ou 16 ans, alors que lui, il en a 40. Mais elle possède force, zèle et discernement, beaucoup de maturité. Aussi, quand Eliezer s'offre à l'emmener dès le lendemain, pour ne pas perdre une minute, tandis que sa mère et son frère s'y opposent, lorsqu'on la fait venir pour trancher le débat, alors elle n'hésite pas une seconde. Elle dit laconiquement « J'irai ». Voilà. Grimpée sur le chameau, dès le lendemain matin, en compagnie de sa nourrice, elle part vers son destin sans se retourner, sans autre dot, on la laisse partir les mains vides, que la bénédiction prophétique des proches. Son frère a récolté tous les biens qui étaient sur le chameau, mais elle n'a pas eu le droit à grand-chose.
Enfin, on lui dit quand même, notre sœur, ô toi, deviens des milliers de myriades, que ta postérité conquière la porte de ses ennemis. Et comme Abraham partit de Haran, eh bien Rebecca quitte son pays, sa parenté et la maison de son père, afin de répondre à l'appel de Dieu transmis par Eliezer. Toujours très intéressant, hein, cette manière de couper parfois géographiquement pour pouvoir s'attacher à son destin.
Exactement.
Et le soleil commence à décliner quand Isaac aperçoit de loin une caravane, la caravane, se dirigeant vers le puits de l'Aïroï. Là où il a planté la tente de Sarah. Précisons qu'il a voulu qu'elle soit aussi la sienne, en souvenir du grand attachement qu'il avait pour sa mère. Et au même moment, Rebecca, le texte nous dit, levant les yeux, comme lui, devine que cet homme qui la regarde, eh bien, il s'agit de son futur époux. Et avant même d'en avoir confirmation par le serviteur Eliezer, le texte nous dit qu'elle saute à bas de son chameau et elle se couvre de son voile, sa hâte et son geste révérencieux liés à l'état d'épouse attentive à réserver sa beauté exclusivement à son futur époux, eh bien, trahit quand même son empressement à faire la volonté de Dieu pour elle et pour son couple.
Oui, et ça c'est très important de le souligner, parce que Abraham, lui, il avait vu Sarah avant de la choisir, de même que Jacob s'éprendra du visage ravissant de Rachel. Mais ni Rebecca, ni Isaac n'en ressentent le besoin, parce qu'ils sont persuadés que la main de Dieu a présidé à leur rencontre et au choix qu'il a fait de l'autre. Et c'est pourquoi il est dit « Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il la prit et elle devint sa femme et il l'aima. Isaac se consola de la perte de sa mère. » Tout est écrit, tout semble aller entre soi, aller de soi entre eux. Mais pourtant, on aurait attendu plus tôt, il l'aima, elle devint sa femme et il l'a pris. Ben non.
C'était en fait marié au premier regard, avant l'émission.
Oui, c'est ça.
Alors, ce verset, quand même, hein, cette manière de la prendre, de devenir sa femme et ensuite de l'aimer, c'est sûr que ça sonne très très mal à nos oreilles contemporaines, on va dire, et puis aussi rebattues avec les thèses freudiennes. Certains y verraient quand même un complexe d'Oedipe maltraité. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est quand même d'installer son épouse dans l'univers sous la tente de sa mère. Et ça, voilà, pour les bien-pensants, ça augure mal d'un couple futur à première vue. Mais c'est sans compter, sans ce génie biblique et la petite histoire juive qui suggère que, en fait, les mérites de Sarah étaient si grands qu'Isaac voulait vérifier que Rebecca était elle aussi digne de pouvoir les endosser.
Tu as raison, à ce moment-là, l'exégèse talmudique va énumérer trois phénomènes qui sont propres à Sarah et attachés à la tante de Sarah, et qui ont disparu quand elle s'est éteinte.
C'est-à-dire que quand elle meurt, il y avait trois phénomènes qui étaient propres à sa tante qui disparaissent.
Qui disparaissent
qui
avec elle.
Qui sont-ils ?
Alors, la première, c'est la nuée qui la couvrait. C'est-à-dire un peu comme si c'était la tante du rendez-vous.
Hein, la Shekhinah de Dieu, la présence de Dieu.
Exactement.
Okay.
Comme si sa tante était le temple. La lumière divine qui en imbait l'intérieur d'un sabbat à l'autre, c'est-à-dire elle ne s'éteignait jamais à l'intérieur de la tente. Il y avait une lumière permanente. Et puis aussi la bénédiction spéciale de sa pâte qui était tellement bien pétrie et tellement bonne et tellement parfumée qu'elle a été capable de régaler les trois anges qui sont venus visiter Abraham sous le chêne de Mambré.
Bah, tout ce que tu évoques par rapport à la tante de cette matriarche Sarah, bah, ça nous fait un peu penser par anticipation au temple de Jérusalem, caractérisé d'une part par la présence de la nuée, c'est-à-dire la présence de Dieu, la Shekhinah de Dieu. D'autre part, on se souvient aussi de cette lumière permanente que tu évoquais et qui existe aussi de la septième lampe du grand chandelier qu'on trouve aussi dans le temple. Et enfin, par rapport à la pâte, à la nourriture, ça nous fait penser aux 12 pains de proposition qui, eux, ne sont jamais rassis dans le temple.
Oui.
Et en fait, dès que Rebecca va franchir le seuil de la tente de Sarah, les trois phénomènes qui avaient disparu vont comme se réactiver en la présence de Rebecca, prouvant qu'elle était bien celle que Dieu avait choisie pour poursuivre la mission commencée par sa belle-mère Sarah.
Et c'est très étrange parce que dans ce foyer si uni, en fait, pendant 20 ans, Rebecca ne va pas pouvoir concevoir. Elle ne pourra pas tomber enceinte.
20 ans de stérilité, hein. C'est juste énorme.
C'est juste énorme. Même si elle a commencé, elle s'est
très jeune, oui, mais quand même.
Elle arrive, elle a presque
17 ans, tu connais la maternité, et un unique fils, des jumeaux, on va voir, des jumeaux, mais 20 ans de stérilité.
Oui, oui. Elle est là,
une souffrance innocente, effroyable.
Alors, ce qu'Abraham avait fait pour son épouse, hein, Isaac va le tenter à son tour pour Rebecca. Et il est écrit au chapitre 25 de la Genèse, il implora Yahvé pour sa femme. Et elle conçut des jumeaux. Voilà, elle rattrape un peu le temps perdu.
Une pierre de coups.
Exactement. Mais il y a un côté sombre parce que les enfants se heurtaient en elle. Et voilà ce qu'elle se dit. S'il en est ainsi, à quoi bon ? Elle est complètement découragée. Hein. Et c'est pourquoi elle va résoudre.
Forcément, elle doit quand même penser à Cain et Abel, parce que les premiers jumeaux, c'était quand même la catastrophe.
Oui, c'est ça, c'est l'ombre plane. Hein. Mmh. Et donc, elle est résolue à aller consulter Yahvé, c'est-à-dire à aller là où on pouvait avoir un oracle, consulter Yahvé. Et alors, celui qui va lui répondre lui dit : il y a deux nations en ton sein. Deux peuples issus des toits se sépareront. L'aîné servira le cadet. Alors cette parole, tellement étrange, parce que normalement c'est le cadet qui sert l'aîné. Hein.
Avec le droit d'aînesse.
Exactement. Cette parole va devenir comme son talisman. Rebecca va avoir cette boussole qui va guider ses pas, la manière dont elle va conduire l'histoire, quitte à contrecarrer le choix énoncé par son époux.
Alors, on va présenter un peu les fils de Rebecca. On commence par l'aîné qui s'appelle Ésaü. Ésaü, ça veut dire celui qui est fait. Et en fait, oui, il est fait. Pourquoi ? Parce qu'il naît roux, nous dit le texte, et velu comme un homme fait, justement. Comme s'il n'était pas un bébé, un nourrisson, mais déjà un homme. Quant à Jacob, le second, Jacob, ça vient d'Akeb, le talon. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il naît, il tient, lors de sa naissance, son frère par le talon. L'idée étant de le talonner pour mieux le supplanter. On le verra dans leur histoire. Donc Isaac, nous dit le texte, préfère l'aîné, habile chasseur, dont il apprécie les chasses, le gibier, tandis que Rebecca, elle mise sur le cadet, en lien avec l'oracle. Jacob décrit comme un homme tranquille, demeurant sous les tentes. Qui plus est, c'est un excellent cuisinier, formé par sa mère, talent qui va lui permettre de faire main basse sur le droit d'aînesse. Il va le vendre, Ésaü, l'aîné, sans remords, juste contre un plat de lentilles. On le verra une prochaine fois. Ainsi s'achève Jocelyne, parce que c'est bien de pouvoir avancer pas à pas, dans cette présentation de ce nouveau couple Isaac et Rebecca. Ainsi s'achève notre émission. Alors, vous pouvez retrouver le détail de ce deuxième couple dans le livre de Jocelyne qui s'intitule « Les couples phares de la Bible » paru chez Salvator. On va diffuser la chanson qui sera l'Annonciation en fin d'émission, et vous pouvez retrouver cette chanson là où vous écoutez la musique, Spotify, Deezer ou autre, et aussi sur ma chaîne YouTube Étienne Tarnot. Enfin, pour ceux qui souhaitent éventuellement goûter un peu de notre charisme en live, sachez que nous animons des contes, des concerts bibliques, des conférences dans toute la francophonie. Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, groupe biblique, fête de famille, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission biblepasapas@gmail.com. Je te souhaite une très très bonne semaine, Jocelyne.
Bonne semaine à toi, Étienne, et surtout bonne semaine à tous.
À midi, toi, Marie, tu scrutes le rouleau qui parle du jardin, du serpent et d'Ève. À midi, toi, Marie, tu tiens un écheveau de soie rouge carmin qui te vient d'Adam. À la croisée du temps et de l'espace, Marie, comblée de grâce, de tes lèvres j'attends le oui du fiat qui fera de toi la mère du Messie. Et l'alliance rompue, jadis dans le jardin, refleurira en Jésus mieux qu'avant. Dis oui, ô Marie, pour que ton fils tête du serpent et sois vainqueur par son sang. À la croisée du temps et de l'espace, Marie, comblée de grâce, de tes lèvres j'attends le oui du fiat qui fera de toi la mère du Messie. Tu m'as